Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour sa grâce, sa présence au milieu de nous. Nous sommes heureux de lui appartenir. Et nous le lui avons dit ce matin. Voilà, cela réjouit le cœur de Dieu, la louange de son peuple, la reconnaissance. Voilà, j'aimerais lire avec vous un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, nous lirons quelques versets en introduction. Jean chapitre 3, verset, on va lire à partir du verset 25. Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent retrouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise. » Et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Voilà, je discutais avec notre frère qui est venu le week-end dernier. Et je lui demandais entre autres ce qu'il avait ressenti, comment il avait vécu un petit peu au niveau de l'Église. C'est important pour nous qui sommes sur place d'avoir un œil de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Bon, je ne dirai pas tout ce matin, mais juste... Bref, il me dit, c'est une église qui prie et Dieu veut pousser. Et il dit, il y a un travail du Saint-Esprit qui s'est fait en profondeur, mais il faut aller plus loin, comme il l'a dit. Il me dit, on sent que le Saint-Esprit veut descendre plus profond et que ça puisse exploser dans le sens, voilà. Bon, le reste... c'est entre lui et nous, mais il me dit, il faut maintenant combattre le bon combat de la foi. Ben, j'ai dit, c'est justement le thème du mardi soir. Donc, merci Seigneur, ça nous encourage. Et je me dis, il faut que le Saint-Esprit descende plus bas, dans notre cœur. Il y a des choses à faire sortir. Parce qu'on a des stéréotypes dans notre esprit, c'est que voilà, on s'est converti, on a donné notre cœur au Seigneur et ça y est. Mais c'est un travail continu du Saint-Esprit dans notre cœur, afin que, eh bien, Jésus soit toujours glorifié en nous et qu'il puisse agir avec force. L'Évangile, je disais aussi que, bon, le monde parle de la mort en ce moment, et chaque année à la même époque, donc... Mais Jésus, lui, nous parle de la vie. Il est le prince de la vie. Il est la résurrection et la vie. Et Jésus ne veut pas que nous vivions une religion, même pentecôtiste, mais il veut que nous vivions une vie véritable avec lui, une vie de l'esprit au milieu de son peuple, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées et qu'il soit glorifié. On parle du Saint-Esprit dans les milieux pentecôtistes, mais ce qu'il faudrait, c'est que peut-être, on en parle un peu moins, mais que le Saint-Esprit ait plus de place au milieu de nous. Voilà, et qu'on puisse dire, voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. L'évangile de Jean, comme vous le savez, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Il y a l'enseignement, justement, un évangile profond, il y a l'enseignement sur le Saint-Esprit qui est le plus abondamment répandu dans l'évangile de Jean, et cela nous éclaire. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que Jésus révèle, eh bien, le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyé. J'ai pas cherché de nombreux exemples, mais il y en a quelques-uns d'exemples et nous les verrons ensemble. L'évangile, c'est une question de cœur. Sinon, rien. Jésus s'adresse au cœur. Jésus est venu changer notre cœur. Jésus est venu nous donner un cœur nouveau. Jésus est venu afin que dans notre cœur, il y ait l'habitation du Saint-Esprit. Sinon, rien. La religion s'attache à l'extérieur, et comme je l'ai souvent dit, et c'est une réalité, nous sommes naturellement profondément religieux. Peut-être quelqu'un me dira, moi non, mais la Bible nous dit que l'homme est profondément religieux, naturel, hein, et il nous faut une intervention du Saint-Esprit pour changer ces choses. Donc la religion s'attache beaucoup à l'extérieur, aux rites, aux gestes, aux vêtements, aux actes, aux paroles, mais Jésus s'adresse au cœur. Et il parlera beaucoup du cœur. C'est notre cœur qui a besoin d'être transformé. Même si quelqu'un me dit « ça fait 50 ans que je suis chrétien » et je peux lui répondre de suite « bien, vous avez besoin de changer ». Moi, j'ai besoin de changer. Il y a besoin de ce changement profond, il y a besoin de réfléchir, de se placer devant Dieu, de prier, de dire « quelle est ma relation avec Dieu ? Qui est Jésus pour moi ? Quelle place le Saint-Esprit a dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur ?» On ne se connaît pas nous-mêmes, hein ? Mais le Saint-Esprit veut nous éclairer pour que ce qui est au fond de notre cœur soit extirpé et que le Saint-Esprit prenne cette place. Ah, c'est formidable, je me dis « merci Seigneur, tu veux vraiment bénir ton peuple ?» Dans ces temps de la fin, qui sont des temps de révélation, hein, ne nous méprenons pas, ces temps de la fin sont des temps de révélation. Dieu va tout mettre en lumière. Pourquoi ? Afin que nous puissions nous repentir et changer de vie. Parce que, eh bien, le Seigneur vient et il prépare son Église, son épouse, il la veut pure, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il veut qu'on extirpe, que le Saint-Esprit puisse extirper de nos cœurs ce qui nous fait mal, finalement, ce qui est au fond de nos cœurs, et là où le Saint-Esprit n'a jamais pu aller jusqu'à ce jour, ça nous fait quand même souffrir. Des fois on se dit, mais pourquoi je suis comme ça, j'ai ceci, j'ai cela, je ne suis pas bien, pourtant Jésus m'a tout donné, je devrais être dans la joie, je devrais être heureux, heureuse, je devrais être épanouie parce que le Seigneur eh bien, m'a tout donné, mais pourquoi ça ? Il y a des choses que le Saint-Esprit veut enlever de nos vies, pour mettre, lui, ce qu'il a prévu pour nous. Il est le seul capable, il est le seul, le Saint-Esprit. Jésus s'intéresse au cœur. D'ailleurs, le problème majeur de l'homme, c'est un problème de cœur, ça se situe au niveau de son cœur. Et lui, le Seigneur, est venu pour nous donner un cœur nouveau. Vous savez, on ne peut rien cacher devant Jésus, mais il y a beaucoup de choses où on n'est même pas conscient nous-mêmes de ce qu'il y a au fond de notre cœur. On n'est même pas conscient. On ne saurait pas dire, mais moi, il y a quelque chose, mais je ne pourrais pas. Le Saint-Esprit est venu pour nous éclairer. Il révèle les choses, non pas pour nous accuser, mais pour nous délivrer. Alors, notre frère l'a exprimé d'autres manières, il y a des blocages, des... Exemple, Jésus qui révèle les cœurs de ceux qu'il côtoie, par exemple dans Jean chapitre 1, verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui qu'il est vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et tous sont étonnés, mais comment, etc. Jésus voyait dans le cœur de cet homme un cœur honnête et bon. Voyez, même dans le chapitre 2, vous avez gardé la page, chapitre 2, verset 23. Là, c'est quand même étonnant ce que nous allons lire, mais ça m'a donné de réfléchir aussi. Jean 2, 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors ce qui est étonnant là, c'est qu'on se dise, c'était des disciples, ils ont cru en son nom, mais Jésus ne se fiait pas du tout à eux. En d'autres termes, il ne se fiait pas à ce qu'il disait, à ce qu'il proclamait, mais Jésus les connaissait vraiment en profondeur. Et ce n'est pas parce qu'on a donné son cœur au Seigneur, parce qu'on est, chrétien, on est baptisé, même baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas un gage, le Seigneur voit nos cœurs. Il voit nos cœurs et il veut que nous puissions refléter sa gloire dans nos vies. Au chapitre 4 et verset 18, il est question de la Samaritaine, cette femme qui vient à Jésus, ou plutôt Jésus qui va à elle. Et au bout d'un moment de la conversation, après qu'il eût dit qu'il était cette source d'eau vive, cette eau vive, et à un moment donné, ben, ça doit arriver à la personne, parce que la parole de Dieu, elle doit arriver jusqu'à notre cœur, c'est du pratique, c'est du concret. Et à un moment donné, Jésus lui dit, mais tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5, et celui-ci n'est pas ton mari. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Jésus ne se fie pas à ce que nous disons, mais il voit profondément ce qu'il y a dans notre cœur. Mais non pas pour nous accuser, les hommes accusent. Les hommes se regardent les uns les autres, et lui a ça, et lui a ça, et l'autre y a ça. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus, quand il montre quelque chose, c'est pour qu'il y ait repentance et délivrance. Ça, c'est la grande différence, et ça, c'est le véritable amour. Parce que de pointer les doigts les uns sur les autres, ça c'est pas du tout l'amour de Dieu, c'est au contraire. Mais Jésus, quand il montre, c'est vraiment qu'il veut délivrer afin que le Saint-Esprit puisse être à l'aise. Et même s'il y a repentance dans les jours qui viennent, eh bien frères et sœurs, on aura encore besoin de se repentir. Encore et encore, parce qu'on n'a pas compris, on croit que la conversion, c'est fait, on pense qu'on s'est repenti en 1910 et c'est fait. Mais c'est pas ça. Changer et continuer de changer. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Changer et continuer de changer. Quand il est dit dans Éphésiens 5 18, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est soyez remplis et continuez toujours d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. La religion, c'est un acte, c'est fait. J'ai été baptisé, c'est fait. Ça, c'est religieux. Mais le Seigneur ne veut aucune religion dans nos vies, il veut une relation vivante. Une relation vivante entre nous et lui, c'est ce qu'il veut pour son Église, pour son peuple, afin que l'Esprit de Dieu ait la place au milieu de nous, que la chair diminue et se taise et que l'Esprit de Dieu puisse parler et qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Dieu veut le faire au milieu de nous. Dieu veut le faire et j'en suis convaincu et c'est fort et notre frère aussi le partageait. Dieu veut le faire au milieu de nous alors que tout ce qui empêche, que tout ce qui bloque, que tout ce qui freine soit chassé au nom de Jésus et que nos cœurs soient remplis de son esprit et que l'on puisse venir dans la maison de Dieu remplis de lui parce que nous nous sommes tenus devant lui, nous avons passé du temps et nous laissons l'Esprit de Dieu agir. Jésus nous connaît parfaitement. On ne peut rien, bien sûr, lui cacher. Et ce ministère du Saint-Esprit nous révèle les choses et nous convainc pour nous en délivrer. Voyez les disciples comme nous l'avons lu. Jésus les connaissait parfaitement et il ne leur faisait pas confiance. Il ne se fiait pas à eux. L'évangile de Christ, c'est l'évangile de la grâce. Il est réellement une puissance extraordinaire. Capable de pénétrer au plus profond de notre cœur et de tout transformer. Ça, c'est notre évangile. Voyons, on s'habitue, je m'habitue, vous vous habituez à parler de la grâce, de parler de la puissance de l'évangile, de l'amour de Dieu, de la croix, on s'habitue. Mais moi, je crois que tout ce que nous pouvons prononcer concernant Jésus, la croix, c'est encore plus grand que ça. C'est encore plus puissant. Quelqu'un me dira, mais moi je connais Jésus, je vais lui dire, il faut que tu le connaisses encore mieux. Je connais Jésus, mais je dois le connaître encore mieux. Car plus je vais le connaître, plus je vais m'abandonner entre ses mains, je vais lui faire confiance, je vais comprendre de quoi il est capable quand il est dit, eh bien que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Simplement ces paroles devraient nous rassurer pleinement. Devrait dire, la terre peut chanceler, comme l'a entendu dans une prière, tout peut être bouleversé. Et mais moi, ce n'est pas les médias qui doivent gouverner ma vie, mais c'est Jésus, la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand Jésus nous parle, et il est dit que l'ami de l'époux, quand il entend la voix de l'époux, il se réjouit. Les paroles de Jésus doivent réjouir, nous rassurer, nous donner d'espérer encore plus en lui et de dire « mais il y a beaucoup de perdus, je dois leur faire connaître, ils sont maintenus et c'est normal, dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, combien de personnes vont vivre seules là pendant un mois, peut-être plus, et si nous pouvons avoir contact, même un contact téléphonique, que nous puissions leur dire que Jésus veut les sauver ». Que Jésus veut pénétrer leur cœur, les bénir. Ah, si nous pouvions faire cela, que quand on parle de mort, bien qu'il y ait la vie qui jaillisse. L'obstacle à cette puissance, c'est toujours l'orgueil de l'homme qui refuse de laisser la lumière révéler son cœur et reconnaître ce qui est la réalité de nos vies. Ça fait mal parfois. Parce que, bon, je suppose que chacun d'entre nous, on a été confronté à cela, le Saint-Esprit nous a convaincus. Je ne parle pas du jour de notre conversion, mais dans notre marche chrétienne, quand nous nous tenons devant le Seigneur, quand nous lisons sa parole, nous la méditons, à un moment donné, le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose et on se dit, je ne pensais pas. Seigneur, mais merci. Merci, j'étais un orgueilleux, mais merci. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, dit le psaume 119. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Quand le Saint-Esprit nous convainc, parce que nous, on a toujours l'impression que ça va, on est bien, naturellement. Et le Seigneur nous voit avec une grande espérance. Mais il dit, voilà, tu as été sauvé, mais je veux faire une œuvre qui, si on te la racontait, tu ne la croirais pas. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu, il nous aime, il est mort à la croix, non pas pour que nous soyons juste un peu meilleurs que le monde, non, il est mort à la croix pour que nous ayons une vie en abondance, une vie de l'esprit en abondance, une vie de bénédiction en abondance. Avec les combats, bien sûr, on n'oublie jamais, il y a le combat spirituel, et c'est normal, et j'allais dire, l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut changer, si on veut laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie, tout va se liguer contre nous. Tout se liguera contre nous. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'ailleurs, dans le verset 19 de ce même chapitre 3, il est dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres, elles étaient mauvaises. » Alors dans ces quelques versets que nous avons lus et dans d'autres, dans ces chapitres des premiers, quoi, il y a un fil conducteur. Dans tous ces chapitres, ces versets, Jésus révèle qui il est et il révèle ce qu'il peut faire et ce qu'il est venu faire. Son œuvre, elle est extraordinaire. Son œuvre à la croix, elle dépasse notre entendement. Il y a une portée, mais éternelle, éternelle. C'est pas Jésus est mort pour que je sois heureux. Ça, c'est réducteur, très réducteur. Jésus est mort pour que je puisse vivre une éternité avec lui. Dans son ciel de gloire, une éternité avec le Seigneur. Dans son ciel de gloire. Donc son œuvre, elle est belle. La vie, la grâce, le pardon, l'amour, la puissance se trouvent là. Et quand nous poursuivrons notre méditation sur ces versets, on introduit un petit peu, mais quand on méditera, on parlera de Jean-Baptiste, de l'homme, de son ministère. D'ailleurs, Jésus dira de lui dans Matthieu chapitre 11 et verset 11, « Je vous le dis en vérité, Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Et quand on voit ce que Jean-Baptiste dit, waouh ! Voilà quelqu'un de grand aux yeux du Seigneur, un homme à genoux, un homme humble, un homme qui sait ce à quoi le Seigneur l'appelle et qui disparaît quand le Seigneur paraît. Il n'en est pas paru de plus grand. Vous voyez, on pense être quelque chose. Et d'ailleurs, bon, j'anticipe un petit peu, mais d'ailleurs, il voulait presque en faire un Dieu. Puisque Jésus dit, Jean, pardon, il dit, mais je ne suis pas le Christ. Pourquoi vous voulez vous attacher à moi, mais je ne suis pas le Christ. Il le dit lui-même. Parce qu'on a tôt fait de faire des hommes, d'en faire des dieux. Mais celui que nous adorons, Jésus, c'est lui, le Seigneur et le Roi. Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle révélation a-t-il eu par le Saint-Esprit, bien sûr, mais quelle révélation, alors que personne ne connaît Jésus encore. Lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'espérance du monde, c'est le Messie, c'est le libérateur, c'est celui qui va pouvoir nous délivrer enfin de notre péché et pouvoir vivre une vie avec Dieu, une vie dans l'espérance, une vie dans la paix, une vie qui porte du fruit, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Car sans Dieu, maintenant on le dit, mais bon, c'est vrai qu'il y en a des centaines de millions qui sont perdus, mais une vie sans Dieu, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. En ayant cet œil, avec du recul, avec la vie de Dieu, on se dit, mais on va vivre, bon, je ne sais pas combien, 60, 70, 80, 90 ans, ou plus, parce qu'il y en a qui ont plus là, ou plus de 90 ans, 100 ans. Mais si le Seigneur n'y est pas, c'est une éternité perdue. Et nous avons besoin de laisser l'œuvre de Dieu se faire en nous. Il y avait ce verset aussi qui m'a interpellé, je crois que c'est dans le chapitre 8. Si nous le laissons faire, je n'ai pas la référence de tête, mais si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Ben on veut le laisser faire. On veut le laisser faire. Oh, Jésus nous bouscule, mais pourquoi ? Pour que nous soyons stables et fermes. Jésus nous amène au point où nous devons nous humilier, mais pourquoi ? Pour nous relever. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Le péché nous éloigne de Dieu et nous rend vraiment malheureux. Mais l'œuvre du Seigneur, quelle révélation, Jean-Baptiste ! Et une succession de révélations au sujet de Jésus. Jean chapitre 1, verset 41, on va vite, mais « Nous avons trouvé le Messie ». Mais ça, vous savez, c'est une phrase courte, mais « Nous avons trouvé le Messie ». Ça veut dire beaucoup, ça. Pour les Juifs qui étaient là, ça veut dire beaucoup. « Nous avons trouvé le Messie ». Ça veut dire « Nous avons trouvé celui dont tous les prophètes ont parlé. Nous avons trouvé celui qui devait venir et que Dieu avait annoncé par les prophètes et même Moïse ». Il vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et dans toutes les prophéties d'Ésaïe, eh bien, nous avons trouvé, notre espérance est là. Nous l'attendions, le peuple de Dieu l'attendait, et nous l'avons trouvé. Vous imaginez, c'est pas nous on lit ça comme cela, nous avons trouvé le Messie, mais eux, quand ils ont dit, voilà, c'est celui qui devait venir. C'est celui qui a été envoyé par Dieu. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu a un plan pour nous et son plan s'accomplit maintenant au temps marqué. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Je bénis Dieu pour cela. Nous disons, mais Dieu ne se trompe jamais. L'œuvre de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est parfaite. Ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur, et pour moi, est extraordinaire. C'est grand, c'est glorieux, c'est inimitable. On ne peut pas imiter l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas l'imiter, on ne peut pas créer en nous le fruit de l'Esprit. On ne peut pas créer en nous les dons. On ne peut pas créer en nous les ministères. Et Jean-Baptiste le dit, mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est moi, je ne peux pas me faire Dieu. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Mais celui qui vient, c'est Jésus. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Christ. c'est pas moi. Et un homme ne peut recevoir, bien sûr, que ce qu'il a reçu du ciel. Quand Jésus a regardé Simon, il va prophétiser sur lui. Mais c'est tellement beau, on peut se dire, Seigneur, quand tu me vois, tu prophétises, il y a quelque chose pour moi. Je suis peut-être dans une vie un peu à l'étroit, ça va pas, mais toi tu prophétises quelque chose de beau. Et quand il voit Simon, il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Waouh ! Là aussi, c'est quelques paroles, hein ? Si on les regarde comme ça, c'est quelques paroles. Mais ce que Jésus va prophétiser à Pierre va se réaliser. Il va dire, voilà, tu vas changer de nom, mais pas seulement de nom, tu changeras de cœur, tu changeras d'esprit, tu changeras de vision, tu changeras de service, de ministère, tu vas changer parce que c'est moi qui vais te changer. C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui communique les dons, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme. Alors vous allez dire, et nous, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on se laisse faire. Parce que c'est nous qui bloquons. C'est nous qui freinons. C'est nous qui mettons le couvercle en disant, à la surface, tout va bien. Et il y a le couvercle. Mais le Seigneur dit, ouvre ce couvercle et laisse-moi pénétrer plus profond. Et là, je vais extirper. Ce qui te fait souffrir, ce qui bloque dans nos vies, dans l'Église, eh bien je vais le faire sortir afin que véritablement l'Esprit de Dieu puisse gouverner les choses. Il veut le faire, le Seigneur, et il va le faire. C'est cela la puissance de l'Évangile. Et comme je l'ai dit, tout se liguera contre nous, quand nous décidons de laisser le Saint-Esprit aller plus profond dans nos vies. Parce que s'il ne va pas plus profond, c'est que c'est déjà encombré. Sinon, du premier coup, il irait jusqu'au fond. Mais Dieu, dans son immense amour, dose les choses. Imaginez qu'à la conversion, il nous montre tout d'un coup. Qui pourrait le supporter ? Jésus pardonne nos péchés. Il nous donne un cœur nouveau, et ensuite il y a ce travail qui va commencer. Ce travail de sanctification, de transformation, ce travail de vie de l'esprit dans nos cœurs. Quand nous regardons la parabole des terrains, on se dit, mais la semence était la même pour tous les terrains. Vous trouvez il est dans plusieurs évangiles, mais par exemple dans Luc au chapitre 8, la semence, c'est la parole de Dieu, elle est la même pour tous. Le semeur, celui qui sème, c'est Christ, et il est pareil pour tous, mais les terrains sont différents. Alors on a l'impression quelquefois que ça s'adresse aux inconvertis, mais l'Évangile s'adresse d'abord aux croyants, hein, aux croyants. Et on se dit, voilà, il y a eu ces quatre terrains. Le premier terrain, le chemin, je vais rapidement, mais rien n'a pu se faire parce que, eh bien, c'était trop dur, le sol était trop dur et la semence n'a pas pénétré et les oiseaux du ciel sont venus. Donc le diable enlève la parole dès qu'elle a été semée. À la sortie de l'église, hop, le diable a enlevé la parole, elle ne fait aucun effet, elle ne produit rien parce qu'il l'enlève. Ensuite, il y a sur le roc, ça veut dire il y a peu de terre, il n'y a pas de racines, pas de profondeur. Et là, c'est la tentation. Dès qu'il y a une tentation, on tombe. Et ensuite, c'est au milieu des épines. Au milieu des épines, ce sont les soucis, les plaisirs de ce monde. Quand ça tombe là, eh bien, tout est étouffé. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Comme sur le terrain, j'ai oublié sur le chemin, il y a trop d'allées et de venues, quoi. Le terrain est dur. Et des fois, dans notre esprit, dans notre cœur, il y a trop de choses qui circulent. Et ça endurcit tout ça. Il y a des choses mauvaises qui peuvent y pénétrer, ça endurcit notre cœur et la semence, la parole ne peut pas produire. Les plaisirs, les soucis de ce monde. Frères et sœurs, je ne dis pas qu'on n'a pas de soucis, mais le Seigneur nous invite à lui remettre. On l'a entendu ce matin à la lecture de la Sainte-Cène, que votre cœur ne se trouble point. croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut que nous puissions obéir à cette parole. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez dire, ça c'est un problème. C'est sûr, c'est pour tous. Mais on veut lui dire, Seigneur, je veux obéir à cette parole. Je veux te faire pleinement confiance. Je veux pas m'inquiéter du lendemain. Ouais, mais quand même, non, Seigneur, tu es tout puissant, tu es tellement grand. Et enfin, il y a un terrain, ça fait que 25%, un terrain sur 4, c'est 25%. Plaise à Dieu que beaucoup plus. Et ce bon terrain, il nous est dit que c'est un terrain qui a été préparé, les mauvaises herbes ont été enlevées. C'est pas parce que le terrain est bon que les mauvaises herbes n'y vont pas. Ceux qui ont un jardin, vous allez vite comprendre que si vous ne faites rien, les herbes, elles vont venir. Même si c'est beau, même si c'est bien, mais les mauvaises herbes, elles viennent. Elles ne nous demandent pas la permission. Donc c'est un terrain qui a été préparé, qui a été bien tous les jours nettoyé, et la semence est venue, elle a porté du fruit au-delà de toute espérance. Quand vous lisez le rapport. Mais voilà, un terrain où la semence va tomber et va porter du fruit. Que la parole de Dieu puisse œuvrer dans nos vies, qu'elle puisse porter du fruit, parce que c'est une puissance, c'est la plus grande puissance de tous les temps, c'est la plus grande puissance appuyée par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, est capable de faire ce que aucun homme, personne ne pourra faire, changer le cœur de l'homme. Mais il n'y a personne qui pourra le faire, changer le cœur d'un homme. Il n'y a que la puissance de la parole de Dieu. Donc le premier chapitre de Jean, il y a plusieurs illustrations de l'œuvre puissante de l'Évangile. Au chapitre 2, eh bien, à Cana, Jésus va faire là son premier miracle. À Cana, il va répondre à un besoin, mais il va changer l'eau en vin. À partir de vases qui étaient réservés pour la purification dans l'Ancien Testament, à partir de là, le contenant n'était pas important, mais Jésus va faire un miracle, il va changer l'eau en vin. Vous allez dire, mais pourquoi ce premier miracle-là? Quelle signification? Eh bien, Dieu change nos cœurs, nos vies. Le symbole du vin, c'est la joie de l'Évangile, de la vie nouvelle. C'est l'eau est plutôt insipide par rapport au vin, et la comparaison est là, et Jésus apporte dans notre vie une dimension qui vient du ciel, qui vient de son cœur, et il va le faire là, son premier miracle. Donc je crois que ce que Dieu a vraiment à cœur, plus que les miracles physiques, et il le fait encore, Dieu guérit encore, mais plus que cela, c'est le miracle dans notre cœur. Nous donner vraiment un cœur nouveau, renouvelé, afin qu'il soit, lui, glorifié. Dans cette petite localité de Cana, Jésus va faire là son premier miracle. Il change. La joie fait partie intégrante de l'Évangile. La joie est un des signes d'une communion avec Dieu. La joie dans notre cœur, je ne parle pas des joies du monde qui sont bien, mais éphémères et temporaires, bien sûr, c'est ces joies qui ne sont pas des plus profondes, mais la joie du Seigneur est une joie profonde. Une joie profonde. Et ça fait partie intégrante de l'Évangile, de cette vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée, de cette communion avec Dieu. Vous regardez dans l'Évangile de Jean, souvent il est parlé de la joie, une joie parfaite, dira Jean. Dans Jean chapitre 15, il dira, je veux que ces paroles demeurent en vous afin que votre joie soit parfaite. En fait, c'est une joie complète. C'est vraiment être heureux dans le Seigneur. Peu importe les circonstances, mais cette joie que Dieu nous donne, c'est une joie complète. Elle ne dépendra pas des circonstances. Jésus dira, quand il parle des démons, il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. La joie. Combien le diable veut ravir cette joie cette joie d'appartenir au Seigneur, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il veut ravir cette joie. Mais Jésus est venu pour nous la donner. La joie fait partie intégrante. La vie de Jésus est ponctuée dans nos vies de notre vie est ponctuée de joie terrestre, mais celle que le Seigneur nous donne est une joie profonde. Dans les versets 13 à 22 du chapitre 2, Jésus entre dans le temple. Vous voyez, il y a plusieurs exemples qui nous amènent à cela. Jésus entre dans le temple, et le temple de Jérusalem, c'était quelque chose. Jésus entre dans le temple, et qu'est-ce qu'il va y trouver ? Il va trouver des choses qui n'ont rien à faire, rien à voir avec le temple. Il va trouver des animaux, des pigeons, des brebis, des changeurs, de l'argent, monnaie, on fait... En fait, le temple avait perdu sa fonction, sa vocation, son nom. Il l'avait perdu. Et Jésus va prendre un fouet et va sortir tout cela. Alors on va dire, oui, c'est vrai, c'était des choses mauvaises. Non, ceux qui le faisaient, c'était pour Dieu. Ils le faisaient pour Dieu. Parce que d'offrir un sacrifice à Dieu, c'était pour Dieu qu'ils achetaient des animaux. Alors plutôt que de les mener de loin avec eux jusqu'au temple, eh bien il se trouvait au temple des gens qui les vendaient sur place pour qu'ils puissent les acheter et les offrir à Dieu. Donc ça partait d'une bonne intention, mais ça n'avait rien à voir avec le temple. Ça, c'est des choses qui devaient se faire à l'extérieur, mais pas dans le temple, et Jésus les chasse du temple. Vous savez, dans nos vies, il y a des choses qu'on peut faire peut-être, qu'on pense que c'est bien, c'est pour Dieu, et quelque part, le Seigneur nous dit non, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec le Seigneur. Il purifie le temple de Jérusalem. C'est quelque chose là. Hein. Ce temple, peu à peu, avait perdu, peu à peu, et si nous ne veillons pas, peu à peu, dans nos cœurs s'installent des choses. Des pensées, des conceptions, des visions, ça s'installe dans notre cœur. Et tant qu'on pense que c'est pour Dieu, ben on va croire que c'est bien. Que le Saint-Esprit puisse venir descendre et nous dire tout ça, ça n'a rien à voir avec un cœur qui est le temple du Saint-Esprit. Notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Et il y a des choses qu'il faut extirper dans votre cœur et dans le mien. Il faut les extirper parce qu'elles sont là et n'ont rien à faire là, même si honnêtement on pense que c'est bien. Des fois on dit des choses, c'est pas bien. Des fois on pense des choses, c'est pas bien. Et pourtant, on peut croire, voilà, mais moi j'ai raison. De sorte que le temple n'était plus le temple, il n'était plus une maison de prière. Et Jésus est venu lui redonner sa vocation que Dieu avait voulu. Une maison de prière. Vous savez, on est une habitation de Dieu en esprit, et notre premier service, ou peu importe, c'est la prière. Si nous ne prions pas, il vaut mieux ne rien faire. Vous m'entendez, c'est ? Si nous ne prions pas, il vaut mieux ne rien faire, parce que ça sera voué à l'échec. Notre première destination, Jésus nous a sauvés pour que nous devenions en lui un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Et notre vie, notre fonction première, c'est de le rechercher, c'est de prier, c'est de l'invoquer, c'est d'avoir une communion avec lui, c'est notre relation, notre fil, c'est par la prière que Dieu nous l'a donné. Chez nous, il faut prier en temps et hors de temps, il ne faut pas juste avec mesure, non, on prie, on dégage du temps et on se tient devant Dieu, et on dit Seigneur, voilà, éclaire-moi, montre-moi, moi je veux te servir, je veux vraiment être un moyen de bénédiction pour mon prochain, pour mon frère, ma sœur, pour l'Église. Je veux être un moyen de bénédiction, Seigneur, éclaire-moi. Ça se passe où ça? Ça se passe chez nous. Ça se passe dans notre maison, dans notre chambre, dans notre bureau. On se tient devant Dieu et on invoque son nom et l'Esprit de Dieu. Et nous avons la parole avec et nous prions et nous méditons la parole. Ah, que Dieu nous aide à extirper de nos vies ce qui n'a rien à faire en pensée, en parole. Il faut que le Saint-Esprit dégage pour descendre en profondeur. Et voyez le temple, c'est pas écrit dans notre texte, mais nous avons d'autres textes. Dans, je pense que c'est dans Matthieu au chapitre. Je sais pas si j'ai noté la référence. Matthieu, oui, chapitre 21, verset 14. Vous voyez, il est dit, les aveugles et les boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Ça y est, il a retrouvé sa fonction, sa vocation. Tout ce qui n'avait rien à faire dans le temple a été extirpé, sorti du temple. Et à partir de ce moment où il est redevenu ce que Dieu avait voulu qu'il soit au départ, eh bien Dieu a manifesté sa puissance et sa gloire. Il y a eu des guérisons et des miracles dans le temple. Et dans nos vies, c'est pareil, hein. Il faut laisser extirper, laisser le fouet du Saint-Esprit extirper de nos vies tout ce qui n'a rien à faire là-dedans. Vous voyez, des jugements, des critiques, des choses. Mais vous et moi, on est tous concernés. S'il y en a un qui me dit « moi, je suis pas concerné », je le crois pas. On est tous concernés en pensée, en parole, en acte. On est tous concernés. Il faut laisser le fouet du Saint-Esprit dégager ces choses et dire « moi, maintenant, je vais m'occuper de Dieu, je vais m'occuper de me tenir devant lui, Seigneur, et si j'ai quoi que ce soit à me plaindre, je me plains de mes propres péchés. » Voilà. Quand on commence à se plaindre des autres, déjà on a fait fausse route. Il faut qu'on puisse se tenir devant Dieu. « Seigneur, c'est moi qui ai besoin de grâce. C'est moi qui ai besoin d'une délivrance. C'est moi qui ai besoin d'une purification. Mon frère, c'est son problème avec Dieu. Ma sœur, c'est son problème avec Dieu. Moi, je prie pour eux, je prie pour elles, mais je suis pas là pour essayer de me comparer. » Qui c'est qui faisait ça? C'est les pharisiens. C'est les pharisiens qui faisaient ça. Lui, il y a ceci, l'autre. Non. Nous avons besoin, si nous voulons aller plus loin, il faut dégager ces choses de nos vies, de nos cœurs, et se placer chacun pour notre part devant le Seigneur en disant « Je suis le temple, Seigneur ». Mais qu'est-ce qu'il y a de choses à dégager là-dedans? Il y en a des pigeons, des brebis, de l'argent, des choses qui se monnaient, des pensées, des attachements, il y a tellement de choses qui encombrent que je dois sortir tout cela. Je pense à Ézéchias aussi, quand il a commencé son règne, il a réouvert les portes du temple et il a sorti toutes les décombres. Vous imaginez le temple, ce qu'ils en ont fait chaque fois, il y avait des décombres dans le temple. Il a tout sorti, il a réparé les portes, il a remis l'autel en place et qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est manifestée. Toujours, toujours. Dans nos vies, ne pointons plus du doigt, ne nous occupons plus de lui et elle et l'autre et ceci parce que on se fait plus de mal à nous, mais laissons le Saint-Esprit disant « je veux être un moyen de bénédiction. Moi Seigneur, tu vois mon cœur, je ne me connais pas vraiment, mais toi tu me connais parfaitement. » Je sais que tu as de bonnes intentions, je sais que ton plan est parfait, je sais que tu es capable d'aller où je ne peux même pas penser au fond de mon cœur et d'extirper tout ce qui est mauvais. Je crois des fois que c'est bon, mais c'est mauvais. Alors Seigneur, que ton esprit agisse comme Jésus a agi dans le temple et ensuite, eh bien, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alors le cœur, on gardera cela et on continuera pendant ce confinement. Pendant le premier confinement, je crois que Dieu a agi dans plusieurs cœurs. Pendant ce premier confinement où globalement, je ne dis pas tous parce qu'il y a quand même le travail là. Ce n'est pas comme le premier où beaucoup étaient à l'arrêt complet. Il y a le travail, mais il y a un peu plus de temps. Mettons à profit ce temps. Je crois que Dieu nous donne du temps. Mettons-le à profit. Plaçons-nous devant le Seigneur jour après jour. Nous avons la parole. C'est bien les les prédications par Internet, mais ne nous nourrissons pas de 10 prédications par jour. Hein. Je crois que c'est bien, il y en a, vous pouvez puiser de bonnes choses, mais surtout, moi et la parole. Moi et la parole. Prédication, bien sûr, mais je veux passer du temps. Je veux comprendre qui est Jésus, ce qu'il veut faire dans ma vie. Je veux le comprendre, comme dans la vie des disciples, dans la vie de Simon. Mais vous imaginez la transformation qu'il y a eu. Un homme comme ça, il est devenu un instrument de bénédiction pour des milliers. Je ne dis pas qu'on va être tous morts, mais que Dieu nous donne juste d'être ce qu'il veut qu'on soit. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Seigneur, je vais m'appliquer à cela. Je vais me tenir devant toi. À quoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des mauvaises pensées, de l'amertume, des critiques, des choses? Il faut que ça disparaisse. Non pas que ça diminue, que ça disparaisse, Seigneur. Mais moi, j'y arrive pas parce que les mauvaises pensées, mais le Saint-Esprit. Et alors après, Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit. Que je sois un moyen de bénédiction et que l'Église puisse continuer à se bâtir, parce que je crois que les choses vont s'accélérer. Voilà, je ne veux pas en dire plus, mais que nous soyons prêts, qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui puisse nous nuire à nous d'abord. Alors, que dans ce deuxième confinement, le Saint-Esprit puisse avoir accès à mon cœur. Parce que quand on pense que tout va bien, que voilà, moi c'est bon, moi j'ai rien à me reprocher, je ne dis pas qu'il faut s'auto-flageller, hein. C'est pas ça du tout. Mais c'est juste de se placer devant Dieu, de laisser le Saint-Esprit aller. Seigneur, voilà, moi je te laisse libre cours dans mon cœur. Voilà, Seigneur. S'il faut que je pleure, je pleurerai. S'il y a des choses qui vraiment sont profondes et sont là, elles me sont nuisibles à moi et à mon entourage, je veux, Seigneur, que le Saint-Esprit m'en libère. Je veux, Seigneur, être en moyenne bénédiction pour ma famille, pour l'Église et pour les perdus. Et que l'Église soit vraiment ce temple, cette lumière pour cette ville. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, quand je vois qui tu es, et Seigneur, j'ai besoin de te connaître encore mieux, Seigneur. Je parle de toi, mais Seigneur, tu dépasses mon entendement. Mais Seigneur, quand je vois ce que tu veux faire, dans un cœur, dans une vie, dans l'Église, ça me dépasse. Seigneur, c'est tellement glorieux, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement profond. Donne-moi de ne jamais me dire être arrivé, être bien, ne plus avoir... Non, Seigneur, parce que là, je serai sur le chemin de la mort. Seigneur, mais donne-moi toujours d'être disponible entre tes mains, de laisser, d'enlever les couvercles. Je ne veux rien te cacher parce que toi, tu connais tout. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Donne-nous pendant ce confinement de laisser le Saint-Esprit agir. Enlève-nous toute pollution, toute pensée mauvaise, toute parole mauvaise, même que nous pourrions entendre. Seigneur, purifie-nous de tout cela et que nous n'acceptions pas des choses qui nuisent à notre âme, mais que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous sonder nos cœurs et nos reins, afin que nous soyons ces instruments de bénédiction, Seigneur, et quand nous nous retrouverons, que nous puissions dire « Dieu a agi en profondeur ». Je te le demande, Père, au nom de Jésus, bénis mes frères et sœurs, bénis les familles, bénis les personnes seules, Seigneur, qui seront peut-être encore plus seules. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, et que la joie d'entendre tes paroles en les lisant, la joie d'entendre les paroles de l'Époux, soit vraiment quelque chose de fort dans leur cœur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.